Vous écoutez France Culture, il est 9h. Et le journal de la rédaction vous est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Sous une chaleur étouffante, ils sont de plus en plus nombreux à faire la queue pour un repas et surtout pour de l'eau tous les jours au nord de Paris, porte de la Chapelle. Les démantèlements successifs n'y ont rien fait et les bénévoles se sentent délaissés par la mairie de Paris. Face à la tension de ces dernières semaines sur place, le collectif Solidarité Migrants Wilson, actif dans le secteur, a décidé d'arrêter pendant ce mois d'août de distribuer les petits déjeuners le matin, une façon d'interpeller la municipalité, Lucas Caltretti.
Depuis l'évacuation du camp du millénaire, il y a 2 mois, les migrants dorment à même le sol, souvent sans couverture, et les associatifs et bénévoles sur place indiquent qu'ils sont également réveillés par la police, pas forcément en douceur. Et à cela, il faut encore ajouter l'évacuation de la colline du Crac. Migrants et toxicomanes sont désormais mélangés à la porte de la chapelle. Philippe Carreau est membre du collectif Solidarité Migrants Wilson. Il a constaté cette montée exceptionnelle des tensions.
Ces 10 derniers jours, on a été obligé de suspendre les petits déjeuners pendant une demi-heure à 2 reprises, ce qui n'était jamais arrivé avant, quoi, pour laisser la tension retomber et puis pouvoir reprendre après. Sauf que quand quelque chose éclate un peu comme ça devant les petits déjeuners, devant nous, et qu'il y a 500, 600 personnes, si ça commence à partir, ça peut devenir dangereux. Ça devient dangereux pour les réfugiés, ça devient dangereux pour nous, quoi.
Ce constat est partagé chez Médecins Sans Frontières et Corinne Thor, chef de mission France de l'association, a des craintes spécifiques vis-à-vis des migrants mineurs.
Ce mélange avec cette population de toxicomanes, ça peut devenir dangereux. Il y a eu déjà des agressions et ça peut très très mal se terminer. Tout le monde est assez d'accord sur le sujet, c'est la raison pour laquelle nous avons sollicité et la préfecture et la ville de Paris, puisque là, il faut impérativement qu'il y ait des actions de surprise.
Et en attendant, pour remplacer les distributions de petits déjeuners du collectif Solidarité Migrants Wilson, la mairie de Paris a engagé un nouveau prestataire.
Les migrants nombreux à Paris, rien de comparable toutefois avec les arrivées massives en Grèce et en Espagne depuis le début de l'année. La Commission européenne a décidé de leur octroyer des aides supplémentaires pour l'accueil de ces migrants. 30 millions par exemple pour Madrid. Il faut dire que le contexte est difficile depuis le refus par le nouveau pouvoir italien d'accueillir les bateaux de migrants dans ses ports, l'Ax Milota.
Plus de 20 000 migrants sont entrés en Espagne depuis janvier. En raison de la fréquence des arrivées, les services espagnols sont débordés pour assurer l'enregistrement et l'accueil de ces personnes. Madrid a donc demandé dimanche dernier à bénéficier du Fonds européen Asile, Migration et Intégration, un fonds actuellement doté de plusieurs centaines de millions d'euros. Face à l'urgence, plusieurs dizaines de millions d'euros seront débloqués ces prochains jours pour l'Espagne, confirme une source européenne. La Grèce a effectué cette même demande il y a 1 mois et recevra 31,1 millions d'euros pour financer notamment les soins de santé, l'alimentation et les frais de traduction. Une enveloppe supplémentaire de 6,4 millions a été allouée à l'Organisation internationale pour les migrations pour améliorer les conditions d'accueil dans le pays. Le Maroc a besoin d'un soutien plus important, reconnaît une porte-parole de la Commission. 55 millions d'euros sont prévus, mais plusieurs États membres n'ont pas versé les contributions promises au Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique et ses moyens sont donc limités, explique le président de l'exécutif européen.
L'avertissement du gouvernement zimbabwéen à présent, il ne tolérera pas la contestation dans la rue à propos des résultats de l'élection présidentielle. 3 personnes ont déjà été tuées hier par l'armée dans la capitale Harare lors de violences entre les forces de l'ordre et l'opposition. Elles ont éclaté ces violences après l'annonce de la victoire de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, victoire aux législatives. Pas de résultat officiel en revanche pour la présidentielle. Au Mali aussi, les résultats se font attendre 4 jours après l'élection présidentielle. Le décompte continue et sur les réseaux sociaux, les rumeurs enflent. Les partis politiques se livrent à une bataille des tendances, Coralie Pierret.
À Bamako, majorité comme opposition, chaque camp dévoile son pronostic. Problème, les tendances affichées ne sont pas les mêmes. Si l'équipe d'Ibeka, le président sortant, l'annonce largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle, d'autres se voient qualifiés pour le second tour. Une dizaine de candidats de l'opposition suspectent des bourrages d'urnes et annoncent d'ores et déjà qu'ils n'accepteront pas les résultats. Les partis politiques ne devraient pas préparer l'opinion à tel ou tel scénario, c'est dangereux, s'inquiète le président de la commission électorale. Car pour l'heure, aucun résultat officiel n'a été donné. Les procès-verbaux en provenance des régions continuent d'être réceptionnés à Bamako. Le Mali est un pays vaste, le manque de routes et surtout l'instabilité sécuritaire liée à la présence de groupes armés terroristes dans le nord et le centre du pays ralentit le retour des résultats vers la capitale. Dans la région de Ségou, à 240 km au nord de Bamako, un convoi de l'armée malienne transportant du matériel électoral et des urnes a été attaqué par des présumés djihadistes dans la soirée de mardi. 4 militaires maliens ont été tués lors de l'embuscade.
Coralie Pierret à Bamako pour France Culture. Israël annonce un nouveau blocage des livraisons de gaz et de carburant dans la bande de Gaza. Réponse ce matin de l'État hébreu après l'envoi de cerfs-volants incendiaires ces derniers mois. Les océans, avec Camille Magnard, que nous venons d'entendre à l'instant, océans qui sont pollués selon le gouvernement par les crèmes solaires, mais aussi les cosmétiques et les lessives. En tout cas, le gouvernement et la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson a demandé à l'agence sanitaire l'ANSES d'identifier les produits chimiques qui pollueraient les récifs coralliens. Sauf que Camille Magnard, donc, les spécialistes des coraux que vous avez joints, doute de la réelle efficacité de ce combat.
Un combat qui n'est pas sans fondement scientifique, c'est vrai. Une étude publiée en 2015 a montré que de fortes concentrations de molécules chimiques comme l'oxybenzone ou l'octinoxate présents dans plus de 3500 crèmes solaires sont particulièrement néfastes pour les coraux. Elles entraînent des malformations sur les larves, puis le blanchissement du corail adulte et sa mort progressive. Il est vrai aussi que 14 000 tonnes de crèmes solaires sont répandues chaque année dans la mer. Mais la spécialiste d'écophysiologie corallienne au Centre scientifique de Monaco, Christine Ferrier-Pagest, tient tout de même à relativiser l'impact de toute action en la matière. Ces 14 000 tonnes, diluées dans l'immensité océanique, représentent des concentrations bien faibles, très loin de celles toxiques constatées en laboratoire. La pollution, si elle existe à une ampleur vraiment significative, ne peut concerner que les récifs coralliens qui se trouvent près de zones de baignade à très forte affluence, alors que la plupart des barrières de corail à travers le monde se trouvent loin de la présence humaine. Cela n'empêche pas les équipes de chercheurs monégasques que de travailler avec des laboratoires cosmétiques à la conception de crèmes solaires moins nocives. Mais les responsables principaux et massifs de la mort des récifs coralliens, ce sont le réchauffement global des eaux de mer et leur acidification, des thèmes politiquement et médiatiquement beaucoup moins évidents à faire passer dans l'opinion publique et surtout beaucoup plus difficiles à empoigner qu'un simple tube de crème solaire.
Voilà pour la mission confiée par le gouvernement à l'agence sanitaire, l'ANSES. Avant cela, le gouvernement et les députés débattaient hier de différents projets de loi. Ils ont été adoptés définitivement à l'Assemblée. D'abord, la loi Asile et Immigration, approuvée hier, après des mois de vives critiques de la part de la droite et la gauche, texte qui prévoit notamment de réduire les délais pour l'instruction des demandes d'asile. Hier aussi, hier soir, la loi sur les violences sexistes et sexuelles portée par Marlène Schiappa a été adoptée à l'Assemblée. Elle doit renforcer la répression des viols et abus sexuels commis sur les mineurs. Elle doit aussi allonger le délai de prescription pour certains crimes. Enfin, adoption définitive de la loi sur l'avenir professionnel qui permet notamment d'être en apprentissage jusqu'à 30 ans. 34 départements en alerte canicule aujourd'hui sur tout l'est de la France et sur le sud. Jusqu'à 40 degrés sont attendus par endroits dans les terres. C'est plus supportable ce matin sur le quart nord-ouest avec des températures entre 23 et 26 degrés. Évidemment, du soleil sur toute la France.